Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice, et encore un livre à recommander Brice aux éditeurs français.
Identity Rules and the Promise of Liberalism par Mark Koyama et Noel Johnson. Durant des siècles, le christianisme est demeuré illégal au Japon. Le pays s'étant ouvert au commerce avec l'Occident, les Américains exigèrent du gouvernement de ce pays le droit, pour leurs ressortissants, commerçants ou diplomates, de pouvoir assister aux offices. Et en 1858, par le traité Harris, les visiteurs occidentaux se virent accorder le droit de pratiquer leur religion sur le sol japonais, à condition de renoncer à toute forme de prosélytisme. C'est aux yeux de Mark Koyama et Noel Johnson un exemple parmi tant d'autres de ce qu'il faut considérer comme des droits collectifs, par opposition aux droits individuels. La plupart des empires multiethniques, en particulier l'Empire ottoman, étaient basés sur ce type d'organisation. Les droits des individus étaient entièrement indexés sur leur appartenance collective, sur leur identité, et celle-ci était le plus généralement fondée sur leur religion. Et bien, par opposition, une société moderne, une société libérale, se caractérise par le fait que chaque individu a un droit reconnu à une sphère distincte de la sphère publique. Il n'est requis d'obéir qu'aux règles qui sont également applicables à tous les autres, quelle que soit sa religion, son appartenance ethnique ou culturelle. Et pour mériter d'être appelé état de droit, de tels régimes doivent établir un certain nombre de règles, prédictibles, stables, générales, et donc également applicables à tous leurs citoyens. Tout le monde y est traité en tant qu'individu et non pas en fonction d'un groupe d'appartenance quelconque. Mais il ne faut pas se cacher que ce type d'État est d'apparition récente, même dans les démocraties occidentales. Pendant des siècles, les personnes se voyaient appliquer des droits distincts selon leurs États, comme dans la France d'Ancien Régime, et là encore, la religion jouait un rôle discriminatoire majeur. Pensez au cas des protestants et des juifs. En fait, le saut vers l'État de droit n'a été possible que lorsque ces États ont cessé de faire reposer leur légitimité sur la religion. Mais cela ne s'est pas fait en un jour et le chemin fut difficile. Il y eut dans le passé des rechutes. Or, prévient Mark Koyama, pas mal de pays occidentaux sont en train de faire de telles rechutes. Dans une société libérale, les individus s'assemblent librement, ils adhèrent au groupe de leur choix et doivent pouvoir les quitter tout aussi librement. Certains d'entre eux peuvent entrer en tension avec le courant dominant de la société. Ils peuvent par exemple rejoindre des sectes religieuses bizarres ou extrémistes, des adeptes de sports extrêmes ou d'activités sexuelles marginales et mal considérées. Et bien, dans une société libérale, la liberté reconnue aux individus de poursuivre des activités désapprouvées par la majorité est cruciale, écrit-il.
Et cependant, Brice, il existe nécessairement un débat sur les limitations à apporter à cette liberté. À partir de quel moment doit-on considérer que les comportements de ces groupements se révèlent rigoureusement incompatibles avec les normes de la société ?
Nouvelle citation. Une société libérale peut et doit admettre des poches d'illibéralisme en son sein, mais elle ne peut pas fermer les yeux sur les abus commis à l'encontre des membres de ces communautés. Fin de citation, en particulier lorsqu'ils impliquent des enfants, évidemment. Alors notre problème aujourd'hui à nous, c'est que sous couvert de multiculturalisme, on voit reculer les droits individuels face à la pression des revendications portées par des leaders communautaires qui réclament des droits collectifs particuliers. Il s'agit d'une régression à un stade pré-moderne et elle risque de se traduire par l'amoindrissement des droits individuels si chèrement conquis. On assiste en effet à un retour bizarre aux communautés auto-administrées d'autrefois, tandis que de son côté, l'État libéral semble débordé et impuissant. Et pour notre auteur, les deux cas les plus frappants sont celui des Pays-Bas et celui de la Grande-Bretagne. En Hollande, pour des raisons historiques particulières, catholiques, protestants et sans religion ont développé des institutions sociales séparées. C'est ce qu'on appelle là-bas la pilarisation. À leur tour, les musulmans ont créé leurs propres écoles islamiques. Les universités donnent à présent des cours de droit islamique. Nul ne s'en choque aux Pays-Bas, tant la société est accoutumée à fonctionner sur une base de séparatisme religieux. En Grande-Bretagne, la situation est plus préoccupante. L'État y a favorisé la création du Muslim Council of Britain en 1997, mais il a délégué à cette institution des compétences et des pouvoirs beaucoup trop étendus au détriment des citoyens musulmans britanniques, car le MCB incarne un courant extrêmement conservateur de l'islam. L'État s'est notamment déchargé sur ce MCB de la surveillance des éléments radicaux. Le gouvernement britannique, écrit notre auteur, préfère ne pas gouverner directement les musulmans britanniques. Il s'en remet à des leaders communautaires. Mais ce faisant, certaines institutions publiques ont fermé les yeux sur des dérives très inquiétantes, en particulier sur les viols et abus sexuels commis sur de très jeunes filles par des réseaux de délinquants. Il a fallu plus de 10 ans pour que les travailleurs sociaux et même la police britannique se résolvent à enquêter sur des faits gravissimes dont ont été victimes des milliers de victimes. Le cas de Rotherham, s'il est spectaculaire, n'est pas isolé. C'est le résultat prévisible d'une délégation de fait des pouvoirs de police à des leaders communautaires. Inévitablement, ils sont tentés de protéger les leurs contre l'État.